Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ma Préférence. Coucou Chloé.
Coucou Tiffen, alors, tu vas bien?
Eh ben oui, très bien, et toi?
Oui, on espère que vous allez tous bien également.
Eh ouais, bah pour l'instant, on est toutes les deux, alors on attend Vanessa, peut-être qu'elle nous rejoindra.
Elle est tellement par Mons et par vous. Ouais,
c'est vrai qu'elle est en vadrouille. Eh ben du coup, je sais pas pour toi, moi j'ai bouquiné. Pendant cette semaine, là, pendant ces vacances, pendant ma semaine de congé, j'ai lu pas mal de trucs qui parlaient de femmes fortes, de militantes, de radio libre et populaire. Enfin voilà, des trucs comme ça. Toi, je sais pas trop ce que t'as fait.
J'ai commencé une BD qu'un ami a écrit. Il s'appelle Yann Bouvier. Il a écrit une BD qui s'appelle Microcosme. Mais okay. J'en parlerai plus tard parce que je voudrais la lire d'abord.
D'accord, on attend alors.
Pour bien expliquer de quoi ça parle.
Et alors du coup, pour ta chronique théâtre, toi, il y a une pièce dans laquelle tu joues.
Théâtre, alors oui. Alors j'ai plein de choses à dire. Cette semaine d'ailleurs, on va d'abord parler dans le passé. Parce que bon, malheureusement, vous l'avez loupé. Puisque à l'heure où vous écoutez cette émission, les dates sont finies. Mais en général, ça se reprogramme souvent. C'est dans le théâtre, le Grenier Théâtre, un théâtre dont je parle souvent. Je viens d'aller voir Ramsès II.
Oui, j'ai failli aller le voir.
Tu as vu les sucettes dans la ville de Toulouse.
J'ai vu l'affiche et oui, je me suis tâtée à aller le voir. Ouais.
Alors, c'est une pièce qui était avec quatre comédiens. Il y avait Valérie Corré, Francis Azéma, Philippe Canizares et Angélique Infante. Et donc, je suis allée la voir. C'est encore jusqu'au 10, là, jusqu'à samedi. Là. Peut-être, si vous entendez ça samedi matin, vous pouvez y aller samedi soir. Et donc c'est une pièce assez forte, moi ça m'a vraiment remué, la fin m'a laissé un petit peu perplexe parce que tout le long on a l'impression que ça traite d'un certain sujet, on est vraiment en empathie avec un personnage et puis à la fin il y a vraiment un retournement de situation dont je ne pourrais bien sûr pas parler, ils nous le disent d'ailleurs à la fin, vous ne spoilez pas. Mais ça m'a chamboulé, ça m'a remué, même je voyais les gens dans le public aussi par moments, être un peu choquée de ce qui se passait parce que c'est assez. C'est dans les propos, c'est violent et en même temps, c'est vraiment bien joué. Il y a également tout un décor qui a été réalisé par Erwan Guillou. Et il a carrément réussi à créer un escalier sur une scène qui monte. On dirait vraiment que ça va à l'étage d'une maison. Et sur cet escalier, il a fixé, vous savez, les fauteuils pour quand on a du mal à se déplacer, qui sont collés à la rambarde pour monter un escalier quand on ne peut pas marcher. Et ça donne un effet comique incroyable parce que un des personnages principaux qui vit dans cette maison est donc en fauteuil roulant et par moments il veut remonter et ça donne un effet avec la télécommande qui monte le fauteuil dans l'escalier qui reste coincé. Enfin, c'est à la fois très comique et à la fois horrible à d'autres moments. Qu'il soit coincé comme ça sur cette chaise. Et je me suis dit, mais comment il a réalisé ça? Parce que quand on connaît la scène vide, on se demande vraiment comment... On voit vraiment un appartement, quoi, avec un étage. Donc, si vous pouvez y aller samedi soir, allez-y. Donc, c'est le 10... Je ne sais plus combien on sera. Je me trompe. Peut-être que ça va jusqu'au 18. Moi, j'ai entendu que ça va jusqu'au 18.
Oui, parce qu'il me semble que Vanessa m'a dit qu'elle allait le... Là, on est le 8. C'est...
Ah oui, alors non, vous avez peut-être encore une semaine. Alors allez-y, vraiment. C'est donc impasse Gramont. Le métro le plus proche, c'est Argoulet. Il y a de quoi se garer.
C'est au Grenier Théâtre.
Grenier Théâtre, ouais. Et alors, franchement, je crois que c'est jusqu'au 18. J'ai entendu le 18. Je pensais que c'était déjà, moi, samedi, le 18. J'avance trop. Mais vraiment, allez-y. C'est assez fort. Il faut se préparer un petit peu mentalement. Mais au moins, ça remue. C'est une pièce, on en parle après, on se pose la question. Pourquoi ça s'appelle Ramsès? À part que, hormis que le héros est fan de l'Égypte, tout ça, il y a plein de suppositions. On en faisait plein avec les autres spectateurs.
L'affiche est intrigante aussi. Quand j'avais vu l'affiche, il y avait un côté... un peu mélange entre le moderne et le côté égyptien. Enfin, c'était... Ouais. Il me semble, dans mes souvenirs.
Ben, c'est ça. En fait, moi, je m'attendais vraiment à avoir un décor égyptien. Je ne sais pas pourquoi.
Ramsès II, on se dit.
Oui, voilà. Et puis, avec l'affiche, on s'imagine dans le désert tout de suite. Et en fait, pas du tout. On est dans un appartement, mais il y a quand même un rapport. Et après, on tergiverse sur pourquoi ça s'appelle Ramsès II. Est-ce que ce n'est pas juste cette passion? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais je ne peux pas en dire plus, sinon j'aurais peur de spoiler.
Il me semble que cette pièce avait fait parler d'elle, non? À une période. Parce que vraiment, ça me dit quelque chose.
Oh, elle a dû se jouer à Paris.
Et... Okay. Est-ce qu'on peut juste avoir le synopsis?
Oui, alors je peux le trouver pour pas le.
Ou juste dire.
Alors moi, je peux vous dire, oui, mais.
C'est compliqué de dire. Ouais, faut essayer de pas trop en dire.
Alors si, je peux dire, c'est donc un couple qui accueille à manger leur fille et leur beau-fils.
Ok.
Le beau-fils arrive avant la fille, seul. Il dit qu'elle arrive et en fait, elle n'arrive jamais pendant un temps. On ne comprend pas où elle est passée. Et lui, il est très étrange. Il se comporte bizarrement, il est barbouillé, il n'arrête pas d'aller aux toilettes. Il dit des choses qu'il oublie juste après. Il est complètement ailleurs. Voilà. Et je ne peux pas en dire plus, vraiment. Et je ne sais pas comment ils résument, eux, d'ailleurs, sur le site internet. Mais allez voir sur le site internet.
Je crois que c'est plus ou moins un truc comme ça. Ouais, c'est le genre de pièce où le spectateur il est constamment en train de réfléchir en mode « Ah tiens, est-ce que c'est ça ?» Enfin, où il y a plein de théories.
Bah, en fait, à la fin, on a quand même une réponse. Hein. Mais c'est juste que ça remue quand même. Et ça, on avait plein de choses à se dire après. C'est chouette, les pièces comme ça.
Ouais, c'est que c'est chouette.
J'aime bien les pièces légères où on décroche le cerveau et après, limite, on l'oublie après aussitôt on l'a vu. Mais j'aime bien aussi quand ça travaille un peu. Donc il y a celle-ci, et donc si c'est une bonne nouvelle, ça va jusqu'au 18 je crois. Ensuite, juste après d'ailleurs dans ce théâtre, il va y avoir Les Amis du placard. Est-ce que tu connais cette pièce? C'est de Gabor Rassoff.
Pas du tout.
Non. C'est une pièce, alors moi je la connais particulièrement bien parce que je l'avais jouée à l'époque, d'ailleurs au Grenier Théâtre également. Et là c'est donc le directeur du lieu, Claude Cohen, qui a décidé de remonter cette pièce avec une nouvelle équipe. Et donc, il y a Laurent Berthier, Angélique Infante, toujours, qui est dans Ramsès aussi. Il y a Lorenzo Salvaggio et la dernière, je ne la connais pas personnellement, je vais retrouver son prénom, mais je ne l'ai pas encore rencontré, Emmanuel Calfon, voilà. Emmanuel Calfon. Et donc, c'est une pièce, alors ça, c'est de l'humour grinçant, vraiment. C'est un couple de bourgeois... La femme est bête comme ses pieds, si tant est que des pieds puissent être bêtes. Mais et lui, il est d'un égo démesuré, complètement absurde. Et ces deux-là, ce couple, ils ont acheté, parce que c'est dans une société où on peut acheter des amis quand on n'en a pas. Ils ont acheté un couple d'amis qui étaient donc des gens qui sont un peu, voilà, qui n'ont pas trop de sous, qui ne savaient plus quoi faire. Et donc, du coup, ils se vendent en tant qu'amis. Et ils les mettent dans un placard. Et quand ils ont besoin de faire une soirée entre amis, ils les appellent, ils les sonnent. Donc, quand ils ont besoin d'amis, hop, une soirée entre amis, tiens, on a envie de faire un jeu société, on appelle nos amis, ils les sortent. Et les deux qui sont achetés, forcément, ils sont... complètement hypocrites, puisqu'ils ils ont peur, la peur au ventre, ils doivent survivre, et c'est leur seul moyen de survie. Ils ont quelques miettes de repas grâce à cet emploi, je mets bien les guillemets parce que c'est un emploi très particulier. Donc c'est sur l'esclavagisme moderne. C'est, moi, quand je l'avais joué, j'avais beaucoup ri, je m'étais beaucoup amusée à le jouer. Je ne sais pas, là, comment ça va être mis en scène. C'est une mise en scène, du coup, de Francis Azéma, qui a également mis en scène... Ramsès II. Là, c'est encore un autre style de théâtre. Je ne sais pas comment il va décider de l'aborder. Donc, j'ai envie de dire c'est drôle, mais on ne sait pas. Ça dépend comment on le monte.
C'est un peu tragicomique.
Vraiment, il dit, Gabor Rassoff, il parle d'humour grinçant. Et pour moi, c'est vraiment ça. Le mot grinçant va vraiment bien.
Je vois complètement.
Ça, c'est pareil. C'est fin novembre au Grenier Théâtre. Et puis, j'en profite aussi pour dire que nous, avec ma compagnie, on rejoue le dîner, notre spectacle phare. C'est un dîner en famille improvisé, pour ceux qui n'ont pas déjà entendu parler de ça. On le joue au Studio 55 le 23 novembre, là, qui arrive à 20h30. C'est un repas en famille. Tu l'as vu, toi, Tiffaine, ou pas encore ?
Pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion.
Ça, c'est notre spectacle phare.
Et le budget pour...
tu m'appelles, on voit... c'est vraiment, on est 5 sur scène avec un pianiste, donc c'est vraiment, si on a envie de découvrir ma compagnie, c'est le meilleur spectacle, enfin c'est pas forcément le meilleur spectacle, mais c'est le spectacle dans lequel on voit le plus de comédiens avec en plus le pianiste, et c'est
Mais je t'avais vu un petit spectacle d'impro, c'était dans un bar, vous étiez
à l'Autruche,
je crois que c'était l'Autruche, ouais.
À l'Autruche, alors ça c'est mon autre compagnie, mais c'est une compagnie amateur qui s'appelle Les Nous et les Autres.
Je crois que c'était ça, oui.
Bah, d'ailleurs, on joue tous les mercredis à l'Autruche et quelques jeudis à l'Escabelle à Arnaud Bernard. Ça, c'est encore autre chose.
Non, c'était pas l'escabelle. Mais je sais que je t'avais vu et ça m'avait impressionné de faire de l'improvisation comme ça avec autant de personnes sur scène. Ça, c'est vrai que
oui,
c'est
ah bah ça, c'est parce que c'est amateur. C'est pour ça qu'on peut. On n'est pas payé. Quand on n'est pas payé, c'est plus simple d'être nombreux sur scène. Pour le dîner, c'est sûr que c'est moins rentable parce que voilà, 5 comédiens et un pianiste, ça fait 6 personnes. Donc, on a besoin de public parce que bah, sans vous, on ne peut pas continuer ce beau métier. Mais c'est drôle. Donc, le public choisit quel membre de la famille on est, un trait de caractère. Et ensuite, on a une annonce à faire. Il y a un des personnages qui a une annonce à faire au cours du repas. On mange vraiment sur scène. C'est ça l'originalité aussi du spectacle. C'est qu'on a vraiment de la nourriture sur scène. Je conseille de venir après avoir un peu mangé quand même parce que souvent, on est dégoûté. Une fois, on s'est fait une raclette à l'escale et les gens nous en ont un peu voulu de l'odeur. Mais du coup, voilà, on mange, on boit vraiment sur scène. Et puis, l'annonce est toujours un peu rocambolesque. La dernière fois que j'ai été, moi, j'ai été les voir en tant que spectatrice. Et l'annonce, c'était « Je suis une super-héroïne ». Donc, en fait, au moment de donner du repas, elle devait annoncer qu'en fait, dans ses heures perdues, elle était une super-héroïne qui sauvait des gens et des vies. C'était très drôle.
Mais j'ai l'impression que tu aimes beaucoup quand il y a des relations, des jeux entre le public et ce qui se passe sur scène.
Alors, l'improvisation, on a toujours de l'intérêt. C'est justement
même
ça,
même dans
l'impro.
Les choses que tu vas voir, en fait. C'est très...
Ah, pas forcément, parce que dans Ramsès, il n'y a pas de...
Bah, il y a quand même un travail sur le cerveau. Il y a un truc de réflexion où on essaie de...
Tu parles juste quand on y réfléchit. Parce que là, dans l'impro, on demande carrément au public de créer l'histoire avec nous, en fait. C'est pas du tout la même chose. Toi, tu parles de...
Je lis un peu tout.
Des choses qui remuent, ouais.
En fait, je relis un petit peu tout. C'est pour une interaction dans le sens, un truc où le cerveau, il va cogiter, quoi.
Ouais. Ben oui, le dîner, c'est vrai que ça peut faire cogiter en fonction de l'annonce. Les publics, on a eu plein de choses. On a eu, D'ailleurs, c'est chouette, quand on sait qu'on vient voir ce spectacle, d'essayer d'inventer une annonce avant de venir, d'y penser avant. Dans les annonces qu'on a très souvent, c'est « j'ai tué quelqu'un ». Donc celle-là, vous pouvez peut-être l'éliminer. On va essayer d'en trouver des nouvelles. Mais j'ai tué quelqu'un ou j'ai empoisonné le vin. On a eu plusieurs des super qui ont rendu des dîners très intéressants. Enfin voilà, je vous invite à voir ça le 23 novembre au Studio 55, Les Amis du Placard. Et puis après, il y a Ramsès 2. Voilà pour le théâtre. On s'est dit qu'on pourrait parler de cinéma.
Oui, parce que tu as choisi une musique en plus en lien avec un film que tu as été voir.
C'est ça, du coup, je vais, j'enchaîne après sur la musique. C'est ça, j'explique pourquoi.
Exactement.
Alors, j'ai été voir, qui est au cinéma en ce moment, Une année difficile avec Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Noémie Merlant, entre autres. Et moi, j'ai vachement ri. C'était vraiment... C'est une comédie légère, mais pas vraiment légère finalement. C'est deux hommes vraiment qui se rencontrent par hasard. Et en fait, les deux sont criblés de dettes. Ils gèrent pas du tout leurs finances. Ils se sont fait avoir par les jeux, par plein de tout un tas de choses. Et donc, ils sont criblés de dettes et ils se rencontrent. Parce qu'ils vont, ils se rencontrent d'une manière, j'en dis pas plus, mais après ils se retrouvent dans une asso qui lutte pour la protection de la planète et un peu comme Extinction Rébellion. Je sais pas si tu connais, Tiffany.
Oui, je connais.
Ben, c'est complètement inspiré de Extinction Rébellion. Pour moi, même le logo ressemble. Et donc ils font de la désobéissance civile non violente. Et eux, ils viennent là juste pour manger des cacahuètes et des chips. Et parce qu'il y a de la récup alimentaire. Et en fait, ils se laissent embarquer parce que bah, celle qui est une des militantes un peu engagée le plus, elle est très jolie. C'est Noémie Merlant. Et eux, c'est des gars de base un peu sur ça. Et donc, ils se laissent embarquer dans un truc qui les dépasse totalement. Ils se disent aussi que peut-être qu'ils peuvent faire un peu de sous avec la récup de meubles, de trucs comme ça que ces gens-là font. Et du coup, c'est à la fois, ça parle d'associations comme ça, avec des gens militants qui se battent pour leurs valeurs, mais de manière un petit peu là, c'est un petit peu caricaturé, forcément. Mais pas tant, parce que moi, j'ai participé à des réunions comme ça, et des fois, c'est un peu surprenant, même la façon de communiquer entre eux, avec les bravos. Les doigts, tout ça. Il y a des... C'est marrant. Et du coup, on rit beaucoup et on est aussi un peu ému. Je Je trouve que ça joue bien. Et ça commence donc avec une scène de Black Friday, donc de cohue de Black Friday, avec la musique de Jacques Brel. Au premier temps de la valse,
la valse
tout simplement, la valse à mi-temps.
Oui, il y a un côté, il y a un effet de style, un effet un peu ralenti.
Exactement, avec les gens qui se sautent dessus pour attraper un téléviseur qui est en réduction, qui s'envoie valser, qui se tire les cheveux et tout, avec cette musique toute douce et toute belle qui s'accélère petit à petit. Et donc ça commence avec cette image-là et ça finit également avec cette chanson-là, mais je ne dirais pas comment ça finit. Voilà.
Je nous mets ça.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Face au lancement, trois ans pour trois fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
J'aime beaucoup les morceaux de Jacques Brel. Je trouve qu'il y a un gros potentiel pour l'utiliser avec des ressorts humoristiques.
Oui, ben, j'aurais pas pensé, moi, c'est en voyant les images que je me suis dit, mais c'est, C'est magique. Et c'est vrai que sur scène, récemment, on a fait une carte blanche d'impro. C'est une création. Et notre régisseur nous avait mis une musique très, très douce, un peu dans ce style-là au début. Et on faisait une scène qui bougeait dans tous les sens. Dans une boîte de nuit, on dansait dans une boîte de nuit. Ça rendait trop bien. Ça m'a fait penser à cette scène dans le film qui bouge, tout le monde hurle, et cette musique qui s'accélère petit à petit.
Eh ben là, c'est le moment où on est censé avoir Pascale au téléphone, sauf qu'elle n'a pas pu se libérer pour se joindre à nous, mais c'est pas grave parce que à l'heure où on enregistre cette émission, eh ben on pourra l'enregistrer, enregistrer sa partie à elle demain. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que là, vous écoutiez, enfin on écoute l'enregistrement qu'on a fait et on se retrouve tout de suite après avec Vanessa. Bonjour Pascale.
Oui, bonjour Tiffaine. Comment ça va?
Eh ben très bien, on a eu plein de...
cet automne arrivé, qui a fini par arriver.
Eh oui, ça y est, il commence à faire un petit peu plus frais là.
Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler de deux livres qui sont pas des livres faciles au niveau du sujet, mais qui sont de très très bons romans. Le premier, il est d'un auteur espagnol qui s'appelle Victor del Árbol. Je vous en avais peut-être parlé il y a longtemps, parce que c'est un auteur que je suis depuis son premier roman qui était publié chez Actes Noirs déjà et qui s'appelait La tristesse du samouraï. Et là, il doit naître à son sixième. Il s'appelle Le fils du père. Alors je vous fais un peu le pitch. Ça se passe donc, le début du roman, on est en Espagne dans les années 2010. Et on découvre Diego Martin, qui est enfermé dans une unité de soins psychiatriques.
Ouf.
On sait qu'il est là parce qu'il est devenu un meurtrier. Mais au départ, on ne sait pas ce qu'il a fait, sur qui. Il n'y a pas plus de renseignements que ça. Et puis on rentre dans l'histoire. Et c'est lui qui parle. Il est persuadé qu'il est victime de la malédiction qui a frappé son père, puis son grand-père avant lui. Alors son père, il avait quitté son village d'Extremadura, c'est-à-dire la frontière avec le Portugal, tout au fin fond de l'Espagne, pour arriver dans les faubourgs crasseux et malfamés de Barcelone. Il traînait dans les tripots de la ville, il n'avait vraiment pas vraiment de métier, il vivait de petits trafics, d'escroqueries. Il avait complètement délaissé sa famille. Il réapparaissait que sporadiquement et il laissait surtout les enfants à sa femme qui était complètement dépressive et violente et qui devait gérer les 5 gamins. Et puis après, on voit l'histoire du grand-père, donc le grand-père de Diego. Le père de Diego ne connaît pas son nom, son prénom. Ça, c'est un peu bizarre dans l'histoire, mais après, là aussi, on comprend pourquoi. On dit toujours le fils de... Et on prononce le nom de sa mère. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez, c'est un peu étrange. Alors qu'on appelle le grand-père Simon, et Simon est parti dans la division Azul. La division Azul, c'était la division que Franco avait envoyée sur le front de l'Est, se battre avec les Russes, avec les Allemands. Donc elle a été de funeste réputation parce qu'elle a commis des exactions terribles. Et puis surtout, pratiquement aucun ne sont revenus, puisqu'on sait qu'elle a été l'issue de la bataille du front de l'Est face aux Russes. Et donc, ce fameux Simon, lui, il reviendra, il part en 1942, il reviendra en 1947, mais il reviendra en ayant vécu et commis le pire. Donc voilà, il y a ces trois générations d'hommes. Et la question que pose ce roman, en fait, c'est: est-ce que les racines du mal sont inscrites dans l'ADN de cette famille ou est-ce qu'elles sont un peu à trouver dans l'histoire espagnole qui est quand même ultra violente et qui a un passé qui est difficile à solder? Donc c'est là la question que pose l'auteur de ce roman. Un roman qui est dense et qui est âpre, mais qui fouille l'âme des hommes qui sont déchirés entre l'amour et la haine et puis surtout qui sont victimes d'événements qui les dépassent. Il est né en 1968, Victor del Árbol, et je l'ai écouté l'autre fois, il a fait une interview sur France Culture, et il expliquait qu'il fait partie, lui, de la génération du silence. C'est-à-dire que quand il était jeune, la guerre civile et tout ce qui s'en est suivi, la dictature franquiste, n'était pas au programme scolaire, et on n'en parlait plus dans les familles. On n'en parlait plus pour la bonne raison que c'était une période qui avait déchiré considérablement l'Espagne et les familles. Donc on a mis une espèce de voile là-dessus. Mais il constate que la génération qui suit et les générations d'aujourd'hui sont les générations de l'oubli. Et je pense qu'il n'a pas envie qu'on oublie ces périodes et il ne faut pas oublier ces périodes parce qu'à un moment donné, elles ressortent. Voilà. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est un des plus grands écrivains espagnols. En tout cas en roman noir c'est certain, peut-être en général aussi, puisque les grands nous ont quittés récemment, Ruiz Zafón, il n'y a pas longtemps, qui est décédé du Covid, Almudena Grandes, qui était une grande autrice espagnole qui nous a quittés l'année dernière aussi. Donc lui, Victor de l'Arbol, c'est vraiment un grand, et vous pouvez le lire parce que ça vaut vraiment le coup. Et il a vraiment une capacité, surtout à la construction des romans, qui est assez fabuleuse. C'est dense, mais on ne le lâche pas. Voilà, ça s'appelle Le Fils du Père. C'est de Victor de l'Arbol et c'est édité chez Acte Noir, donc Acte Sud. Et puis, un super roman qui est vraiment, peut-être, avec ce que je sais de lui, dont je vous ai parlé précédemment, mon deuxième gros coup de cœur de la rentrée littéraire, c'est L'Enragé de Sorge Salandon, dont on connaît le journaliste Sorge Salandon, mais il y a l'écrivain aussi qui a écrit de très très bons romans. Et je me demande si son dernier, ce n'est pas son meilleur. J'en ai lu beaucoup. Mais celui-là, il m'a vraiment impressionnée. Il s'appelle L'Enragé, donc. Et il raconte cette histoire. Dans la nuit du 27 août, alors une histoire vraie, hein, dans la nuit du 27 août 1934, il y a 56 gamins qui se révoltent et qui s'échappent de la colonie pénitentiaire pour mineurs qui est située sur Belle-Île-en-Mer. Donc, se lance une chasse aux enfants, une véritable chasse aux enfants qui est faite par les habitants de l'île. Tous sont capturés, mais non, pas tous. Il en manque un. Il manque un évadé à l'appel. Il s'appelle Jules Bonneau. Il a 20 ans. Et c'est son histoire que nous raconte Chalandon. Il est enfermé depuis 1927, quand il s'échappe. Donc, il y a une puissance romanesque de ce récit qui en fait un vrai roman. Un roman qui vous prend aux tripes, qui vous montre l'homme tel qu'il est de pire. Alors, il est violent, vicieux, peureux, intéressé, grégaire, enfin tout ce que vous voulez, mais qui nous permet aussi de croire que par certains actes héroïques, courageux, parfois désespérés aussi, certains humains certaines personnes peuvent rendre son humanité à l'homme, quoi. C'est ce que montre ce roman. Et l'écriture de Chalandon est tellement poignante. On sent qu'il écrit vraiment, il est concerné par cette rage. Il est aussi, lui, plein de rage, je pense. On connaît par ses précédents écrits son enfance qui n'a pas été fabuleuse, il en a beaucoup voulu à son père. Il a plein de colère, il ne supporte pas l'injustice. Et franchement, on le sent dans son écriture et ça en fait quelque chose d'assez unique, je pense. Et Jules Bonneau, vraiment sous la plume de Sorge Salandon, il devient un peu le gamin qui venge toute l'enfance meurtrie sur la terre et dans les temps. C'est vraiment un très très bon roman. Honnêtement, achetez-le, offrez-le. Sorge Salandon, L'Enragé, vraiment.
Est-ce que tu peux juste nous rappeler...
très bonne littérature.
Tu peux juste nous rappeler où ça se passe ?
Ah, ça se passe sur Belle-Île-en-Mer.
D'accord.
Sur l'île bretonne, en fait.
Ah, d'accord.
Donc, les enfants sont dans un bagne, parce qu'il faut appeler ça par son nom, c'est un bagne, ils sont extrêmement maltraités. Se retrouvent là des petits délinquants, hein, c'est le cas de Jules, hein, qui est pas. Mais il y a aussi des gamins dont on ne sait pas quoi faire, hein, qui sont un peu pupilles de la nation, qui sont orphelins et qui honnêtement n'ont rien à faire là. Et il faut voir à quel point on les maltraite, quoi. C'est quelque chose, quand on lit ça, c'est pour ça que je dis c'est deux romans qui sont quand même durs, parce qu'il y a des passages de L'Enragé où on se dit mais comment on a pu laisser faire ça ? Voilà, c'est révoltant. C'est révoltant et ça, je pense que ça révolte Chalandon depuis longtemps. Et je pense qu'il y avait longtemps qu'il avait envie d'écrire ça. Il l'a fait admirablement bien. Donc voilà, il faut en profiter. C'est magnifique. Voilà pour aujourd'hui.
Eh ben, merci Pascal. Ça va être des livres.
Ça vous aura donné envie de lire.
Je pense qu'il faut se préparer un peu peut-être psychologiquement avant de les lire. Mais c'est important, c'est des sujets importants à aborder.
Ouais, je pense que c'est des sujets importants, tout à fait. Oui, oui. Je pense que le sujet de l'histoire sur laquelle il ne faut pas tirer un trait, c'est très important. Mmh. On voit ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient et on comprend à quel point c'est important. Et puis, l'enfance qu'on a pu maltraiter et qu'il faut, voilà, des choses sur lesquelles il faut revenir comme ça parce que ça fait partie de notre histoire, mmh. qui n'est pas glorieuse, mais qui est notre histoire. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, voilà, c'est de très bons romans et c'est des sujets graves, mais qui sont susceptibles d'intéresser beaucoup de monde quand même.
Ouais.
Voilà.
Ben, merci beaucoup,
c'était
Pascal.
C'était ma petite leçon du jour. Je vous dis à bientôt.
À très bientôt. On espère t'avoir en direct la prochaine fois.
Voilà, j'espère. On y arrivera, on va y arriver.
Oui, oui, complètement.
Allez, à bientôt,
Pascal.
Au revoir.
Au revoir. Et on se retrouve avec Vanessa qui vient de nous rejoindre. Elle a à peine eu le temps d'arriver qu'on l'a alpaguée.
Mais c'est ça, j'ai même pas le temps d'ouvrir mon ordi, de me préparer et tout. Vite, faut que tu fasses ta chronique. Je suis désolée les filles, hein, j'ai un emploi du temps hyper chargé avec 5 avant-premières cette semaine, plus l'ouverture du Festival international du film de Muret. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à préparer, mais je suis ravie d'être avec vous et de vous faire un petit coup de petite chronique. Et cette fois-ci, on va parler série. Mais juste avant, je voudrais vous dire que l'ouverture du Festival international du film de Muret se fait avec un film qui a été tourné à Toulouse.
Oh.
Et
je ne suis pas dedans.
Non, tu n'es pas dedans.
Encore une fois.
Et qui s'appelle Double Foyer.
Ah mais oui, mais j'ai des amis qui sont dedans par contre.
Ben voilà.
Ah ça y est, ça sort déjà.
Alors là, c'est l'avant-première. La petite avant-première, donc c'est réalisé par Claire Vassé avec Émilie Dequesne, Max Boubil, Pierre Rochefort et bien d'autres.
Et oui, et d'autres comédiens que je connais, Michael Alaoui notamment.
Tout à fait.
Qui d'autre ? Il y avait une amie qui s'appelle Laetitia Pelé qui a fait de l'assistante
réalisation, ça, ouais, comme ça. Qui était sur le tournage
ouais,
et tout.
C'était un chouette tournage apparemment.
Il paraît que c'était très sympa, notamment dans un cimetière, mais on n'en dira pas plus. Si vous voulez avoir un peu plus d'éclaircissement sur le Festival international du film de Muret, on vous a fait un spécial chaud devant avec la présidente Jo Loubet. N'hésitez pas à écouter le podcast parce que ça vaut vraiment le détour. Et on vous décortique pratiquement tous les films qui seront présentés. 51 avant-premières quand même.
C'est quand l'avant-première de Double Foyer du coup ?
Le 11 novembre.
11 novembre, ok.
À 21h.
Ça marche, merci.
Tu notes ?
Oui, je note.
Tu vas te présenter. Alors, moi, je vais parler d'une série. Vous savez, mon amour pour les séries, notamment pour les séries mexicaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé d'un petit bijou qui s'appelait « En un battement » sur Netflix. Ça vous dit quelque chose ? On
oui,
volait
dit,
des
oui.
cœurs.
Oui, ça me dit quelque chose.
Trafic d'organes et tout.
Oui.
Et j'avais adoré. Quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série mexicaine qui arrivait sur Netflix, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis mis dessus. Et ça s'appelle « Pacto des silencios ». Et le synopsis, c'est « Pour connaître la vérité sur sa naissance, une célèbre influenceuse animée par un violent désir de vengeance plonge tête baissée dans la vie de 4 femmes. » Et je peux vous dire une chose, c'est que ça déménage. Ça dure 18 épisodes. J'ai eu énormément de mal à lâcher. J'aurais pu voir les 18 épisodes si jamais je m'étais fait un marathon. Mais à un moment donné, je me suis dit non, je vais au lit parce qu'il est quand même 1h du matin et là, c'est plus possible.
Surtout quand on a des petits bouts qui se lèvent un peu plus tôt que nous.
Oui, et surtout quand tu te lèves à 2h30 pour distribuer les journaux.
Là, ah oui, mais oui, alors non, mais toi tu te lèves dans tous les cas.
C'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, il y a un casting de rêve. Marimar Vega dans le rôle de Martina Robles. Camila Valero dans le rôle de Brenda Rey. Lizzie dans le rôle de Sofia Estrada. Kika Edgar dans le rôle d'Irène Bustamante, José Manuel Rinson dans le rôle d'Adriano, et croyez-moi, Adriano y déménage, Martin Barba dans le rôle d'Alex, Éric Chapa dans le rôle de Rodrigo. Pour vous la faire simple, c'est quatre jeunes filles qui étaient en pensionnat, qui se retrouvent dans une situation très embarrassante. Eh oui, il y en a une des quatre qui tombe enceinte, mais on ne sait pas laquelle. Et ça, tout au long de la série, on se demande qui est la mère de l'influenceuse. Qui est sa vraie mère et pourquoi on lui met des bâtons dans les roues pour connaître la vérité. Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à savoir qui c'est et qu'elle est traquée, qu'il y a des personnes qui la suivent et qui veulent en attenter à sa vie. Et ça, c'est très très fort, c'est très bien amené, réalisé, c'est hyper fluide et c'est vraiment vivant, captivant. Et on se dit, oh mon Dieu, qui est la personne qui lui veut du mal? Est-ce que c'est l'une des femmes, justement, qui a un but, ou c'est autre chose? Chacune s'est réalisée différemment. Une est dans la politique. Elle veut devenir la mère. Et là, c'est très très pointu. Elle a toute sa famille qui est derrière elle, dont son fils. Et ce fils va tomber follement amoureux de l'influenceuse.
Ah, il y a des histoires d'amour.
Oui, il y a des histoires d'amour, mais il y a des histoires d'amour un peu compliquées, parce que justement, ça ne plaît pas à la mère en question. Oui. Et après, il y en a une, elle est dans la littérature, elle a écrit un livre qui avait été un succès, et puis, page blanche, elle n'y arrive plus. Et quand l'influenceuse lui dit, tu vas raconter ma vie, en plus, moi, j'ai énormément de followers, et tu peux faire un carton avec. Et elle dit, banco, sauf que c'est un piège. Petit à petit, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer de se venger de chacune des femmes. Parce qu'aucune des femmes qui se disent, mon Dieu, qui est cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut se faire passer pour l'enfant, justement, en question? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de la famille d'une chose qui s'est passée, oui, parce que, il y a une très très grande zone d'ombre. Et en plus, la responsable du pensionnat est retrouvée morte, pendue. Est-ce un meurtre? Est-ce un suicide? Toute la question. Et vous allez être pris dans les 18 épisodes. Croyez-moi, ça va être très 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 dur de lâcher prise.
Bon, il faut faire ça à un moment où on n'a pas d'impératif dans l'heure. Quoi.
Non, en cocooning, tu sais, tu te fais un dimanche cocooning sous la couette, sous la pluie.
Brunch avec tout ce qu'il faut. Comme ça, on n'a pas besoin de sortir pour s'alimenter.
Tu fais tout ce qu'il faut. Tu fais juste des petites pauses pour pouvoir te soulager. Mais sinon, croyez-moi, vous êtes conquis par cette distribution et par cette réalisation et aussi par cette photographie. Vous allez passer un excellent moment et moi, j'adore les séries mexicaines.
Tu peux nous rappeler le nom de la série?
Ça s'appelle Pacto de Silencio.
Et c'est sur Netflix?
C'est sur Netflix. 18 épisodes, l'intégralité. C'est une mini-série.
Là, je crois qu'il va y avoir même des abonnements à Netflix vu la façon dont tu en parles.
Il y a des séries qui donnent envie aux gens de s'abonner. Merci Vanessa.
Mais de rien, avec plaisir.
Pour le coup, moi je vais reprendre, je vais parler de cinéma parce que...
Cinéma, pas de jeux vidéo cette fois-ci.
Non, pas de jeux vidéo, déjà parce que je suis en train de me remettre de la perte de ma console Nintendo Switch.
Oh.
Et oui.
Oh.
Elle a rendu l'âme, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah non, je me la suis fait voler.
Ah ouais,
là c'est terrible, c'est affreux. Donc là, je vais parler de films parce qu'il y a un certain film qui est sorti, peut-être certains amateurs de Japanimation le sauront, c'est le dernier Miyazaki.
Ah oui, on en a parlé, le garçon et le héros.
Le garçon et le héros dans un show devant. Et moi, à l'heure où on enregistre, je suis allée le voir hier soir. Du coup, j'avais envie d'en parler, mais avant, j'avais envie de mettre un morceau qui est un morceau de Kenshi Yonezu, qui est Spinning Globes, qui est en fait la musique de fin. Voilà, je te vois hocher la tête, Vanessa, et on se retrouve tout de suite après.
Bokuga 生まれた日の空は
高く遠く晴れ渡ってた。行っておいでと背中を撫でる声を聞いたあの日、季節の中ですれ違い、時に人を傷つけながら、光に触れて影を伸ばして、さらに空は遠く、風を受け走り出す枯れ木を越えてく、この道の行く先に誰かが待ってる、光さす夢を見る、いつの日も扉を今開け放つ、秘密を暴くように飽きたらず思い馳せる、地球儀を回すように、僕が愛したあの人は誰も知らないところへ行った、あの日のままの優しい顔で今もどこか遠く、雨を受け歌い出す、一目も構わずこの道が続くのは続けと願ったから、また出会う夢を見る、いつまでも一かけら握り込んだ秘密を忘れぬように、最後まで自分の正しい願いから始まるもの、一つ寂しさを抱え僕は道を曲がる、風を受け走り出す、枯れ木を越えてく、この道の行く先に
Du coup, bah, je suis allée voir le dernier Miyazaki. Miyazaki, faut savoir que c'est mon enfance. J'ai vu ses films, je les ai revus, je les ai re-revus. Enfin, j'ai grandi avec ses films. Et le dernier film que j'ai vu, c'était Le Vent se lève, j'avais 13 ans. Là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'y suis allée à moitié en aveugle. De toute façon, Miyazaki, on ne sait jamais trop à quoi on doit s'attendre. Et j'ai été très surprise, pour le coup. Je comprends pourquoi les gens ont été décontenancés. En fait, j'avais l'impression de voir un mélange entre un film de Miyazaki et un film de Isao Takahata. Dans la mise en scène, dans le ton. Parce que Takahata, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'était... Malheureusement, il est décédé. Et il faisait des films qui étaient très terre-à-terre, qui étaient très réalistes. Genre, c'est lui qui avait fait Le Tombeau des Lucioles, notamment. Et il y a un côté que j'ai trouvé dans ce film qui était très terre-à-terre. dans les représentations. Il y a certaines choses qui sont montrées qui sont très visuelles. Il y a certains côtés où c'est moins métaphorique. Mais d'un autre côté, c'est très absurde. Donc du coup, ça fait un espèce de mélange et il change constamment de ton. Et ça, c'est un truc que peut-être que les fans de Miyazaki ne sont pas habitués. Le changement de ton, en fait. En général, il y a un ton qui est à peu près le même sur tout le reste du film. Là, on a l'impression de voir un film un peu angoissant. Il se passe des choses... moi, j'avais peur. Il y a des moments, je me disais, mais c'est un film d'horreur, ce que je regarde, ou qu'est-ce que... Et après, direct après...
Non, c'est vrai que ce n'est pas pour les petits-petits. Non, ouais, hein, ça fait... D'accord, hein. À partir de 7-8 ans, parce qu'avant, il y a des zones d'ombre, et tu dis, oula...
Ouais, c'est
moi, je n'emmènerais pas mon gamin de 5 ans.
C'est vrai que c'est un film qui est très, très sombre, même dès le début. De toute façon, dès le début, ça se passe dans les années 40. On voit la sirène, la ville. Il y a des choses qui sont très concrètes. Très réel, on est à Tokyo. Et en même temps, il y a un côté un peu Alice au Pays des Merveilles parce que c'est très absurde. Et en fait, pendant tout le film, moi, je sais que j'étais larguée, je ne comprenais pas. J'avais l'impression à chaque fois de voir des morceaux de films différents. Il y avait un côté très mélange, très syncrétisme. Et il y avait vraiment ce côté. Et c'est un film un peu à l'image d'une phrase qu'il y a dans le film qui est... Il y a une phrase de moi qui est écrite qui est... ceux qui cherchent à comprendre périront. Et c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est un film, il ne faut pas chercher à le comprendre avant la fin, il faut vraiment se laisser porter parce qu'à la fin on comprend, pour le coup on comprend un peu les tenants, les aboutissants et c'est... on comprend un peu, enfin on comprend plus à la fin.
Vanessa n'a pas l'air d'avoir tout compris.
Ouais, Vanessa elle hoche la tête.
Disons que oui, la fin apporte des ouvertures et on comprend, mais je pense que c'est plus un côté psychologique et un côté d'introspection aussi de soi-même.
Oui.
Et c'est une confiance. Je crois qu'il y a ce personnage, ce jeune garçon, qui a un manque de confiance en lui. Et tu le sens petit à petit reprendre goût à la vie, reprendre cette envie de voir autre chose et de tourner la page sur un deuil. Parce que c'est aussi comment faire le deuil et de différentes façons. C'est ça qui est assez impressionnant chez Miyazaki parce qu'il a cette façon de nous parler de sujets graves, mais dans toute une poésie, toute une densité. Et il joue beaucoup avec les éléments. Je le disais, je vois Léo à côté qui hoche la tête. Je disais avec l'eau. L'eau, c'est un élément hyper important pour lui. Et il s'en sert à chaque moment, aussi bien des moments où on pense que la partie est perdue. Et tout d'un coup, l'eau disparaît. Il y a la sécurité du foyer, la sécurité. Donc voilà. Et ce monde que tu disais avec Alice au Pays des Merveilles, voilà, c'est pas un lapin, c'est un héron qu'on suit, mais un héron tout à fait bizarre. Mais ça, vous le découvrirez dans le film, parce que pour moi, je pense que ce film, il faut pas trop en dire, parce que si tu en dis trop, et même la bande-annonce est trop révélatrice, je trouve.
Elle révèle un petit peu le... Je sais pas. Elle révèle pas l'aspect du film auquel je m'attendais. Ouais. Après, effectivement, pour les enfants, c'est un film qui a une mise en scène très contemplative. Donc, c'est vrai que pour un enfant, c'est peut-être trop... Ça peut être pas paraître trop long, pour le coup.
Il y a des longueurs. Mon ado m'a dit « c'était un peu long ». Il y a des moments où je me suis perdue, je suis sortie du film.
Ouais.
Et c'est dommage. En fait, je pense qu'il a voulu trop en mettre. Ça fait 10 ans qu'on attend le nouveau Miyazaki. Et en fait, il a fait un panel de tout ce qu'il y avait avant. Il a tout mis, même son amour des avions, en petite touche. Ouais. Hein, tu l'as vu, la petite touche.
J'ai beaucoup aimé.
Et du coup, voilà. Et je pense qu'en en mettant trop, ça surcharge le film. Et du coup, tu es un peu perdu dans son explication, dans sa façon de voir. C'est vrai que la fin est révélatrice, mais il manque quelque chose.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire par là. Après, je pense que c'est peut-être un peu volontaire aussi.
C'est dense.
J'ai l'impression que c'est volontaire que ce soit dense par rapport au message. Alors, pour rappeler un peu l'histoire, c'est Maito. On est dans les années 40 à Tokyo. Il perd sa maman dans un incendie. Et avec son père, ils partent vivre en fait, à la campagne chez la sœur de sa mère, qui est sa tante. Et sa tante lui dit qu'elle sera sa maman. Elle lui dit, à partir de maintenant, c'est moi ta maman. Et voilà. Et en fait, on va le retrouver dans cet univers-là. Il va rencontrer un héron cendré qui est magnifique, qui est très bizarre, et il va se passer plein de choses étranges. Et voilà, c'est globalement le début. Par contre, j'avais beaucoup aimé la musique. La musique, c'est Joe Hisaishi, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est très minimaliste. Et elle porte beaucoup le film, en fait. Elle porte beaucoup le concept du film. Elle indique ce qui se passe, elle donne certaines clés. En fait, c'est parce qu'on écoutait la musique, parfois, qu'on comprend que, ah, il y a un truc à voir. Souvent, elle indiquait pas mal de choses. Donc, pour la musique, ouais, bah après, ça les chie. En tout cas, moi, j'ai aimé. C'est un film qui est assez étrange. Vous savez, en sortant, il y a beaucoup de moments où j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Il y a beaucoup de moments où je me demandais ce que j'étais en train de regarder. Il y a des moments où tu as peur, tu te dis, mais attends, c'est un Miyazaki. Et après, directement après, il y a un truc, tu retrouves un côté très, très cartoon. Enfin, c'était... Non, franchement, c'était une belle surprise. Pour le coup, j'aimerais bien le revoir. C'est un film que j'aimerais bien revoir.
Il faudra attendre qu'il sorte, du coup, c'est ce que j'ai
vu. Ah non, il est sorti.
Non, mais je veux dire, il est plus en salle.
Ah, moi, je sais qu'il est plus du tout en salle au cinéma. Moi, vraiment, hier, c'était le dernier.
Peut-être dans les petites villes alentour de
Toulouse. Je pense que dans des villes plus petites, ouais.
Oh, si, il est toujours en salle.
Ah, si, je sais pas.
Ouais, il est toujours en salle.
Je sais pas du tout. Moi, je voulais y aller aujourd'hui, le jour où on enregistre, mais j'ai vu qu'il n'y était plus, en fait, à partir d'aujourd'hui,
au Pathé Wilson.
Ah, au Pathé Wilson, oui, peut-être au Gaumont-la-Bèche.
Peut-être, ouais.
Au Gaumont-la-Bèche, au Ségér, Blagnac, partout.
Oui, et les petites villes.
Et les cinémas d'auteurs qui ont les films 2 voire 3 semaines après, que ça arrive, que ce soit à Plaisance-du-Touche, que ce soit au Cratère, à Toulouse. Donc, que ce soit à Blagnac, il y a le Rex à Blagnac. Donc, n'hésitez pas. Hein, regardez sur Internet. Et de toute manière, quand vous faites Allociné... Et vous tapez séance, là vous avez, vous mettez Haute-Garonne. Et c'est quoi ? Ah bah l'American Cosmographe. Merci beaucoup Léo.
Je me doutais bien qu'il sera l'American.
Ah, voilà, il y est encore 9 novembre, 10 novembre, 11 novembre, 12 novembre, 13 novembre, 14 novembre. Tu vois, toute la semaine. Donc, non.
Ah bah,
il
super,
est encore. Il est plus au Pathé Wilson parce que, malheureusement, il y a énormément de films qui sortent. Là, il y a 6 films, voire 8 qui sont sortis, plus des
avant-premières.
Non, des réouvertures.
Il y a des rétrospectives.
Des rétrospectives. Ouais. Et puis, où ils refont le film en 4K et ils nous ressortent le film dans les salles. Donc,
Vrai. Des fois. J'ai oublié de parler de quelque chose, justement. On parle des petits cinémas, il y a le VO.
Mais le VO.
Le
de
VO
Muret.
À Muret. Ouais. Et il y a une projection le mercredi 29 novembre. C'est la projection des 48 heures film projet. Mm. Vous connaissez ce concours ? C'est un concours pendant 48 heures. En fait, on doit carrément réaliser un film, écrire, réaliser et monter un film. Le vendredi soir, on se voit recevoir une catégorie imposée. Ça, c'est pour chaque équipe différente, une catégorie différente. Et pour toutes les équipes, on a un personnage imposé avec un métier, donc un nom, un prénom, un métier, un objet, une phrase imposée. Et on doit faire un film comme ça. Donc, en général, les équipes écrivent le film le vendredi dans la nuit jusqu'au samedi. Le samedi, normalement, on réalise. Et le dimanche, normalement, c'est montage. Sachant que on dort très peu, surtout les gens qui font la technique, les comédiens, normalement on est censé un peu dormir, mais la dernière fois je n'ai pas dormi. et c'est super intéressant et il y a vraiment de tous les niveaux, mais à chaque fois c'est un plaisir de voir ces films. Et il y a une petite remise des prix, donc c'est le 29 novembre, il y a la remise meilleur film, après il y a meilleur acteur, meilleure actrice... meilleure réalisation, meilleur placement de la phrase, meilleur placement de l'objet, toutes ces choses-là. Et c'est toujours une petite cérémonie sympathique. C'est sur, comme il y a beaucoup d'équipes, cette année, je crois qu'il y avait 49 inscrits.
Ah, quand même.
Et 43 qui ont réussi à rendre le film à temps.
Ah oui.
Notre équipe, nous n'avons pas réussi à rendre le film à temps.
Vous avez loupé le coche.
Voilà, mais on sera quand même diffusé. Apparemment, on peut avoir le prix du public si jamais vous venez. Mais on s'en fiche du prix. Nous, on fait ça pour aussi le plaisir et pour le challenge, beaucoup. Mm-hmm. Parce qu'en plus, du coup, ça fait un film tout de suite. Il est fait, quoi. Pas comme parfois quand on fait des films avec des étudiants. Parfois, on ne reçoit jamais le film en tant que comédien. Ou alors, 6 mois, 1 an après... Donc là, c'est l'occasion de voir vraiment le résultat d'un travail, certes très rapide et pas toujours abouti, mais au moins c'est chouette. Et puis c'est original, donc n'hésitez pas à y aller au VO de Muret le 29 novembre. Petite place pas très chère, je crois que c'est dans les 6 ou 7 euros. Enfin, l'entrée, c'est pas...
Ouais, ça dépend, des fois ils font des prix à 4,50 euros et tout, il faut se renseigner sur leur site internet. Ouais.
Voilà.
C'est parfait. Est-ce qu'on a une dernière chose à ajouter avant de clôturer cette émission?
Prenez soin de vous.
Et ben, on va pouvoir clôturer sur cette belle phrase. Merci les filles d'être
merci
venues.
Merci Tiffany.
Merci à tout le monde.
Et on vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la radio et sur l'application Esprit Occitanie. On vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, pour reparler culture. Et on vous souhaite une très très belle semaine.